Mon père, nous avons encore quelques questions à vous poser sur la mémoire. Dans son ouvrage « L'évolution créatrice », Henri Bergson parle de la mémoire comme n'étant pas une faculté de se souvenir, ni de classer des événements passés dans un tiroir ou un registre. On voulait savoir ce qu'est la mémoire juste. Est-ce un sens interne? Est-ce une faculté? Est-ce un pur mécanisme?
La mémoire accompagne notre vie sensible. Elle accompagne notre connaissance sensible qui est dans le temps. La mémoire est utile à cause du temps, puisque les événements arrivent successivement. L'expérience que nous faisons tous les jours, si on fait un examen de conscience le soir, on fait à notre mémoire. Qu'est-ce que nous avons fait pendant la journée? Qu'est-ce qui vous rappelle ce que vous avez fait pendant la journée? Ça vous fait tous les matins, tous les concrets. Puis de temps en temps, les illuminations que vous avez eues pendant la journée. Les lumières, ils sont... Donc, la mémoire est liée au temps. Est liée à l'espace et au temps. Elle est liée au conditionnement. Il va jouer un rôle très important dans l'ordre prudentiel, dans l'ordre moral, puisque c'est comme ça que je m'éduque. C'est par la mémoire que je continue ma propre éducation, moi-même, en me rappelant durant la journée ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Et ce qui a été bon en raison de telle ou telle posée, ce qui a été mauvais en telle ou telle taxe mauvais. Je fais ce discernement. Ce qui fait que petit à petit, je m'habitue à pouvoir me gouverner. Je me gouverne grâce à ma mémoire. Si je n'avais pas de mémoire, je ne pourrais pas me gouverner. Parce que par la mémoire, le passé est présent. Les activités passées sont présentes. Et donc, les activités passées peuvent être corrigées. La mémoire est donc sensible. Elle est donc liée à l'imagination. Je fais le discernement entre ce qui est imaginaire dans ma journée et ce qui a été réel. J'arrive à discerner l'un de l'autre. Et la mémoire aide beaucoup à ce discernement du passé et du présent. Et je peux arriver à discerner le passé. Le passé, je le connais par ma mémoire. Je ne le connais pas par mes sens externes. Mes sens externes ont agi au point de départ de ma mémoire, mais le soir, je ne vais pas recommencer à faire tout ce que j'ai fait pendant la journée. Mais et ça revient dans ma mémoire, sous un mode particulier du souvenir. Il y a des gens qui ont une mémoire folle. Il suffit d'avoir lu quelque chose pour qu'ils le savent. Alors, c'est un grand avantage d'avoir une mémoire folle, c'est qu'on fait des progrès sensationnels. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à saisir ce qui est actuellement, parce que la mémoire est tellement forte qu'on demeure dans le passé. Il y a des êtres qui ont beaucoup de peine à vivre du présent. Ils vivent toujours du passé. Parce que le passé est tellement fort chez eux qu'il est comme actuel. Alors vous voyez, c'est très variable selon les individus. Et la mémoire joue un rôle très différent selon les individus, qui ont un rôle très différent donc au point de vue de la personne. La mémoire va jouer énormément au point de vue de la prudence. Je m'éduque grâce à la mémoire. Si je n'avais pas du tout de mémoire, je ne pourrais pas m'éduquer. Et au fond, quand le passé n'est pas très drôle, on a beaucoup souffert durant la journée. L'examen de conscience va très vite. Parce qu'on ne va pas revivre tout ça. J'en ai assez. Passons vite. C'est ce qu'on fait. Alors, si on passe trop vite, on ne s'éduque pas. On ne s'éduque plus. Alors il y aura l'ami qui sera là. Mais tu ne te rappelles pas, tu as fait cette bêtise et tu recommences. Il va dire, oh, c'est vrai, pas pensé. Parce que notre mémoire est moins actuée quand il s'agit de choses qui sont désagréables. Tandis qu'en disant des choses agréables, on se souvient très bien du chocolat pris à telle date. On se souvient très bien. Vous voyez, parce que les sensibles propres ont été plus actués, ont été mieux actués. Alors il y a une mémoire plus parfaite que les sensibles communs. Ce qui est très curieux, alors ce serait très intéressant à voir, et ça, ça n'a pas été fait. Y a-t-il une mémoire différente selon nos cinq sens? Autrement dit, y a-t-il cinq modalités de la mémoire? Ce qui est sûr, c'est qu'on a chacun d'entre nous une mémoire vis-à-vis de tel ou tel sens plus développé chez nous. On a une mémoire plus développée du côté des sensations, une mémoire plus développée du côté de l'œil, la vision, une mémoire plus développée du côté de l'ouïe. Et ça, je crois que c'est très vrai. Un musicien, artiste, a une mémoire beaucoup plus développée du côté de l'ouïe. Il retient tout, alors que non, tout lui. Donc il retient tout. Et par le fait même dans la vie ordinaire, l'intonation de la conversation joue un rôle beaucoup plus grand. Vous avez dit ça en colère. Alors, je ne sais même pas du tout, je ne suis pas en colère, je suis très calme. Ah, votre voix exprimait la colère. j'ai eu contrainte ça très visiblement, ça m'a fait du bien. Est-ce qu'il y a 5 modalités de mémoire différentes? C'est sûr, c'est toujours la mémoire. Donc je dis modalité, simplement. Mais je crois qu'on avons chacun d'entre nous une mémoire plus fertile, plus éveillée, ou du côté tactile, ou du côté ouïe, ou du côté vision, ou du côté goût. La Madeleine. Le goût. Qui reste? Je viens, c'est une histoire de noviciat. Le père Maître avait reçu comme cadeau des madeleines pour les novices. Mais ces madeleines avaient été mises dans une boîte à savon. Alors vous voyez ce que ça faisait. Quelque chose de très curieux. Alors, comme parmi les novices, il y en a un qui était particulièrement sensible. C'était un Suisse. Il est mort maintenant, je vais en parler. Il est plus âgé, il avait 30 ans. Vous avez 35 ans. Il avait reçu une éducation princière. Parce que c'était des très grosses fortunes suisses. Alors, les très grosses fortunes suisses le savent. Quelles sont les grosses fortunes suisses? Ils sont éduqués avec les princes. Et il a reçu cette éducation-là par le fait même si Madeleine, immangeable, il faut le manger. Gabriel, il faut la manger. Ah non. L'obéissance ne m'exige pas de dire que c'est bon alors que c'est mauvais. Et que. Non, c'est pas acceptable. Mais le goût. La mémoire du goût. Une mémoire du goût. Très développé pour quelqu'un qui est habitué à manger dans sa jeunesse, très bien. Donc, à tout goûter. Et aussi, par le fait même, une répulsion plus grande au goût de savon dans la madeleine. Ce qui était très désagréable, je me souviens très bien. C'est très curieux, cette réaction violente. Alors, le père Maître, qui était un vrai père Maître, très bon, il avait 20 ans de père Maître. Rien d'y pas cité. Mais la madeleine est revenue le soir. À sa place, refais-toire. Pour lui, même réaction. Ne touche pas. La médaille est revenue le matin. Le maître attendait. Mais ça fait un petit drame. Et c'était quelque chose de très particulier. J'ai su, il y avait tout passé, on voyait très bien la mémoire du goût qui venait et l'empêchait d'avoir vomi devant cette madeleine. Et ça a duré toute une semaine. Chacun chacun d'entre nous, nous regardions ça comme un novice. Permettre le noviciat. Est-ce que la Madeleine va faire rater un noviciat? C'est rigolo. Bon. Alors, pour venir, c'est que la mémoire est donc quelque chose de très, très particulier. Il y a peu de livres sur la mémoire. Je me souviens, j'avais eu envie d'en écrire un, et j'avais regardé, et j'avais vu qu'un topic très rapide, parce qu'il y a très peu de livres sur la mémoire. Ça reste donc quelque chose où on peut faire une thèse de philosophie sur la mémoire. C'est intéressant. Et la mémoire joue un rôle extrêmement important pour notre prudence. Celui qui n'a pas de mémoire ne peut pas être éduqué. Donc sa prudence ne peut pas s'éveiller. Celui qui a beaucoup de mémoire, alors la prudence, au contraire, est très active. Et ça joue alors un rôle pour la personne, c'est sûr, par le point de vue de la prudence. Alors,
mon père, vous avez évoqué les cinq sens tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que la réceptivité des cinq sens prolonge ou alors diffère de celle de la mémoire? Parce que dans la mémoire, c'est une capacité aussi de réceptivité.
Oui.
Comment est-ce que les cinq sens jouent dans cette réceptivité-là?
La mémoire garde d'abord les sensations, donc pas la réceptive. Vous voyez? La mémoire garde d'abord l'acte. C'est l'acte où la mémoire garde. Et si l'acte n'est pas très, très net, la mémoire l'étouffe très vite. Vous voyez, quand vous faites cette petite expérience du soir, quels sont les événements qui restent le plus actuels de votre journée? Est-ce que ce sont les plus importants? Ou pas nécessairement le plus important. Ça dépend de vous, selon l'importance des choses que vous mettez. Mais sûrement que les événements qui touchent le point de vue de la finalité sont les plus importants. Mais la madeleine qu'on ne mange pas, au point de vue de la finalité du novice, obéir ou permettre, jusqu'où va l'obéissance se permettre? Est-ce que l'obéissance se permettre doit faire que cette madeleine a mauvais goût, je la mange quand même? Alors, les limites qui viennent de l'acte, de l'opération. Très délicat à voir, parce que les réactions de goût sont extrêmement individuelles. On voit ça quand on vit en commun. Une soupe brûlée, c'est pas très agréable, mais c'est encore mangeable. Mais pour certains, non. Et tout passé, comment avez-vous vécu? Et c'est la mémoire. Une mémoire très affinée. La vision. Une mémoire très affinée au point de vue des sons. Très affinée au point de vue des goûts. Et ainsi de suite. Bon.
Peut-on distinguer une mémoire affective d'une mémoire liée à la connaissance?
Oui, c'est sûr. La mémoire affective fait que si je suis très, très développé du côté de l'affectivité, il est évident que tous les événements prennent une couleur affective plus grande et donc sont gardés dans cette couleur affective. Vous voyez, je prends cet exemple que je donnais. C'est sûr que ce novice, vis-à-vis de cette Madeleine, avait une réaction que moi, je n'avais pas. Intérieurement, je me crois qu'il dépasse ça. Non, il ne pouvait pas le dépasser. Et il ne pouvait pas le dépasser à cause de l'affectivité. L'affectivité était telle chez lui que ça lui donnait mal au cœur. J'avais envie de vomir. Et vous sentez que vous-même, votre affectivité est différente. Si vous êtes très fatigué, votre affectivité est plus forte. Si vous êtes bien reposé, vous dépassez. Quand on est fatigué et un peu malade, très vite, on a envie de vomir. Du fait qu'il y a un petit obstacle. Et si vous êtes au contraire en pleine force, ouf, aucune importance. Vous voyez ? Donc l'affectivité joue énormément dans le fait de la passion, dans le fait de la mémoire. Je dirais que c'est l'élément principal.
Mon père, dans un autre ouvrage de Bergson, Mémoire et matière, il dit que la mémoire peut connaître deux orientations, essentielles en tout cas. Une du côté passif, ce serait la mémoire de la conservation du passé, et une du côté actif, qui serait la mémoire du rappel du passé. La fois dernière, vous nous avez éveillé à la... au fait que la mémoire pour la personne humaine ne pouvait être saisie que liée à l'âme. Et on voulait savoir, en fait...
L'âme sensible. Pas l'âme intellectuelle, l'âme sensible.
Ok. La distinction entre intellect passif et intellect actif peut-elle jouer au niveau de la mémoire, enfin de ces deux aspects de la mémoire, une mémoire passive... Une mémoire active.
Attention, point de vue actif et passif, je suis au niveau de l'esprit. Alors, c'est une distinction qui, point de vue de l'esprit, est assez normale. Est-ce que je peux avoir cette distinction point de vue sensible?
C'est ça la question, père.
Oui. Alors, je repose la question. Est-ce que, au niveau sensible, je peux avoir la distinction entre actif et sensible? Non. Point de vue sensible, c'est l'acte, c'est l'opération. Il n'y a pas, la capacité passive est très développée par l'intelligence, pas par le sens. Par les sens, je suis beaucoup plus lié au temps et au lieu. Tandis que par l'intelligence, je suis au-delà du temps et des lieux. Et parce que je suis au-delà du temps et des lieux, il y aura forcément distinction entre le point de vue passif et le point de vue actuel qui sera beaucoup plus grand. Un homme passionné est un homme de l'instinct. Sensible. Il est tout entier, tout entier dans son acte sensible. Tandis qu'un intellectuel, faites attention, il n'est pas tout entier dans le point de vue sensible. Il n'est jamais tout aussi dans le bon sensible. Alors, cette spontanéité qui fait qu'on est tout entier dans le sensible, c'est sympathique. C'est très sympathique. On acquiert les cœurs comme ça. Mais ça ne dure pas. Tandis que le point de vue de l'intelligence, c'est moins spontané, mais ça dure. C'est tout suffisant. Et là, la mémoire joue très bien, très fortement.
Bon. Une autre question. Pouvons-nous dire, par analogie, que la lucidité chez la personne humaine est à l'instant présent, ce que la mémoire est aux événements passés?
Oui, mais il faut faire grande attention. En fait, une comparaison. Qu'est-ce qui demeure de commun? Reprenez.
Pouvons-nous dire, par analogie, que la lucidité chez la personne humaine est à l'instant présent, ce que la mémoire est aux événements passés?
L'instant présent, saisi par l'intelligence, je suis, tu es, est unique. C'est l'acte d'être. Dès que vous êtes dans le passé, vous n'êtes plus dans l'acte d'être. Dans ce qui a été ou ce qui peut être. Donc l'élément de la passivité est beaucoup plus grand. L'acte doit être saisi comme acte à quelque chose d'unique. Il y a quelque chose d'unique. Rien ne peut changer ce jugement d'existence, ceci est. Parce que justement, ceci est, repose sur les sensibles propres. Tandis que la mémoire sur le passé repose sur les sensibles communs, beaucoup plus. Sans que, en fait, l'analogie n'existe que au point de vue activité humaine. Mais ce sont deux activités humaines très différentes, puisque l'une est dans le temps, l'instant présent, l'autre est dans le passé. Donc, ce qu'il y a de commun, c'est le temps, mais c'est les deux extrêmes du temps. Le passé et l'instant présent. L'instant présent n'est connu que dans l'acte actuel. Je suis. Ceci est. Et toute ma métaphysique, toute la connaissance repose sur ceci est.
Une autre question. Aujourd'hui, dans les accompagnements psychologiques et psychiatriques, on parle souvent de thérapeutie ou de thérapie ou guérison de la mémoire. Pour le philosophe, la mémoire peut-elle être malade?
C'est pas la mémoire qui est malade. C'est votre affectivité. C'est vous qui colorez la mémoire par votre affectivité. Il y a des souvenirs tristes, il y a des souvenirs aigués. Nous sommes plusieurs à prendre un verre de vin et nous rappelons les bons souvenirs de camarades. Et l'atmosphère était ce souvenir des bons souvenirs. On ne se souvient pas, ou beaucoup plus, moins, de moins. me souviens bien moins des souvenirs tristes. Et une espèce, c'est normal du reste, une attitude vitale et qui est sur l'acte plus que sur la puissance. Pourquoi, autrement dit, poser la question autrement, pourquoi les souvenirs joyeux, nous les gardons plus que les souvenirs douloureux? Normalement, les personnes qui gardent plus les souvenirs douloureux sur les souvenirs douloureux, elles sont malades. Elles sont désespérées. Ils n'ont plus le moral. Tandis que, alors là, on pourrait voir la différence entre les jeunes et les moins jeunes et les plus âgés. Les plus âgés insistent davantage sur le point de vue des événements qui ont été douloureux, que les jeunes insistent moins sur ces événements-là et voient plus ces événements joyeux. Alors là, c'est une diversité de mémoire qui dépend de l'âge. Vous devez lutter contre la vieillesse pour ne pas être toujours dans le passé. Vous ne luttez pas beaucoup sur la vieillesse quand vous êtes jeune. Et vous ne vivez pas dans le passé. Moins. Alors que l'homme plus âgé, ou le vieillard, vit naturellement dans le passé.
Mais ben pourquoi est-ce que vous dites naturellement ?
Naturellement, c'est à cause de sa nature. La nature, ça prend l'âge, prendre du côté de la nature.
Mais est-ce que le point de vue de l'acte et de la finalité ne l'emporte pas sur cette nature?
Mais ça dépend. Chez le jeune, oui, mais pas chez l'âgé. C'est justement.
Pourquoi est-ce que l'accumulation de l'expérience ne lui permet pas de...
L'accumulation d'expérience est souvent plus négative que positive. Dans la vie, instinctivement, c'est très curieux, ça. Et ça, c'est le point de vue affectif. Les souffrances vous marquent plus que les joies. Vous vous souvenez plus, ordinairement, hein. Vous vous souvenez plus facilement de vos souffrances que de vos joies. Pourquoi ? Alors, si je dis naturellement comme ça, et ça s'accentue avec la vieillesse. Et la jeunesse, le point de vue joie, le point de vue positif est plus grand. Mais ça restera vrai quand même chez les jeunes qu'ordinairement, du point de vue négatif est plus fort, affectivement. Ça fait comprendre, du reste, pourquoi que, en vieillissant, le point de vue négatif est plus fort et l'emporte souvent sur le point de vue positif. Alors que dans la jeunesse, c'est l'inverse.
Mon père, une dernière question. Dans la philosophie grecque, certaines écoles ont parlé de catharsis ou de purification. Par la quête de la contemplation, ou en ayant un mode de vie ascétique. De nos jours, quelle serait la place du réel et de la finalité humaine dans l'unité entre la mémoire de l'individu et son identité personnelle? Peut-on parler de la mémoire, peut-on parler de mémoire personnelle? Est-ce que la mémoire est nécessairement individuelle?
Elle est individuelle, mais pas personnelle. Je ne mets pas d'opposition entre l'individu et la personne, parce que toute personne est individuelle. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Or, la mémoire est toujours personnelle, est toujours individuelle. Alors, individuel et personnel pourraient faire la différence entre ceux qui regardent ma fin et personnel, ceux qui regardent tout simplement ce que je suis est individuel. Je vais mettre entre fin, entre personnel et individuel, la distinction entre cause finale. La personne est toujours ordonnée vers la fin. Et puis, ce qui est tout simplement ce que je suis, ce que je suis maintenant.
Lorsqu'on parle de guérison de la mémoire ou de purification de la mémoire, est-ce que le philosophe réaliste peut proposer un chemin par rapport à l'assomption de la mémoire?
Le philosophe réaliste fera toujours grande attention à ce que la finalité ne soit pas perdue, oubliée. Quand on a un grand coup qui vous touche directement, vous risquez toujours d'être sous l'impression de ce coup et d'oublier votre finalité et alors de retomber dans le chagrin, dans la douleur. Donc, tout ça, la douleur est toujours individuelle. Elle vous individualise terriblement. Un malade, très malade, il est tourné sur lui-même. Quelqu'un qui n'est pas malade est en pleine course. Alors, plus facilement, on est malade âgé que jeune. On est plus vulnérable. Où est-ce qu'on a été resté au point de vue de la recherche de la personne?
On s'était rendu au corps.
Oui, au corps, oui. Évidemment, la mémoire est liée au corps. C'est un des aspects très importants du corps, c'est la mémoire. Et c'est par la mémoire que le corps prend une importance énorme dans ma personnalité. Le corps a moins d'importance dans ma personnalité quand je suis davantage finalisé. Vous voyez, quand on est fatigué, le conditionnement prend une très grande importance. On a tous fait cette petite expérience. Quand on est encore plein de force, changer de lieu, c'est agréable. Quand on est plus âgé, changer de lieu est désagréable. prend tout de suite un caractère désagréable. Parce que on n'est pas habitué, et par le fait même, le changement de lieu fait qu'on est plus facilement perdu, et ça se retrouve le soir pour le sommeil. Et alors, le fait de dormir, c'est toute la question de dormir. C'est le corps. C'est le corps qui a besoin de dormir. Mon âme n'a pas besoin de dormir. Mais mon âme liée à mon corps a besoin de dormir. Et c'est une des choses les plus désagréables et les plus ennuyeuses, c'est de ne pas pouvoir dormir. On en devient malade. Un gosse, il dort très facilement. N'importe où, il dort dès qu'il peut. Et le vieillard, il devient la même chose, comme un gosse. C'est très curieux. Alors que un homme en pleine vie, normalement, ne dort que quand il se met, je veux dormir. Il s'arrête. Et quand il est en trop grande activité, il n'arrive plus à dormir. Alors, c'est toute la question du sommeil. Une des choses les plus difficiles à savoir ce que c'est. Il suffit de voir les médecins en face. Quand vous avez perdu le sommeil, ils ne savent plus quoi faire. Attention, il faut à tout prix le retrouver. Il faut à tout prix retrouver le sommeil. Sur le soir, est-ce que vous promenez, ça vous détendre? Est-ce que ça ne vous aidera pas? Parce que si vous ne dormez pas, c'est parce que vous êtes trop tendu. Mais ça avance grand chose parce que vous êtes trop tendu. Je suis tendu, pourquoi? Parce que vous vivez trop les événements, avec trop d'activités. Vous donnez tous les événements, vous les encaissez. Si au contraire, vous prenez cette mentalité, dites, comme je te pousse, ça n'a pas d'importance. Alors les événements passent. Et vous ne vous fatiguez pas. Vous êtes en dehors. Donc, plus on est engagé, c'est-à-dire plus on est vivant, plus on est éveillé par notre finalité. Et on est parfaitement éveillé dans la contemplation. Quand on est en dehors de la contemplation, on est parfaitement éveillé par l'action. Ce qui est en acte en nous. Si l'action ne nous intéresse plus, c'est quelque chose qui n'est plus du tout pour nous. Alors, on ne s'intéresse plus à ça. Par le fait même, notre corps reprend ses droits. Et notre corps, c'est toujours pour la potentialité. Notre corps aime de se reposer, aime de ne pas être en acte. C'est cette pesanteur potentielle que nous portons en nous. Qui devient de plus en plus importante. C'est curieux que le corps a une importance plus grande chez le vieillard que chez le homme, que chez le jeune homme. Une importance plus grande, c'est-à-dire attire davantage l'attention. Il est lui-même plus attentif qu'il dépend beaucoup plus des circonstances dans lesquelles il se trouve que lorsqu'il est jeune. Lorsqu'il est pleine vie, il dépasse le point de vue du conditionnement. Il est très finalisé. Avec l'âge, il est moins actuel et moins finalisé. Et donc le conditionnement l'emporte davantage. Et il y a un équilibre là, ce qui est très curieux à voir, l'équilibre entre la finalité et le conditionnement. Je crois que c'est très important parce que la finalité regarde notre personne et notre conditionnement regarde notre nature. Nous retrouvons nature et personne. Notre personne, d'une certaine façon, ne vieillit pas, tandis que notre nature vieillit. Là, quelque chose qui est très important pour être la personne. Quand on est jeune, le point de vue corps, corporel et tout ce qui est lié au corps, joue beaucoup moins. On est beaucoup moins conditionné par son corps. Et même, on risque quelquefois de l'oublier, le conditionnement corporel. Tandis que lorsqu'on est plus âgé, le conditionnement corporel s'impose. Il n'y a pas de danger de l'oublier. Le corps est trop présent. Vous voyez ? Alors, c'est montré, quand on est jeune, le point de vue de la finalité doit tout emporter. Quand on est plus âgé, le point de vue du conditionnement prend plus d'importance. On voit ça pour l'âge des communautés. Une communauté vieille, une communauté jeune. Une communauté jeune a un pouvoir de conquête extraordinaire. Une communauté vieille doit lutter contre le vieillissement, donc contre le conditionnement qui risque de tout envelopper. Et donc, la part entre finalité et conditionnement est différente au point de vue personne selon l'âge. Ça fait que notre personne est dépendante du développement temporel de notre âge. Le corps est source de tous les conditionnements. C'est le conditionnement substantiel, le corps. C'est presque contradictoire hein, de dire conditionnement substantiel, mais c'est le corps. Le corps, c'est le conditionnement substantiel. Je suis conditionné par mon corps. Et mon âme spirituelle me finalise. Et la suppression de la recherche de la finalité entraîne nécessairement la suppression de l'âme. On ne s'en occupe plus. On ne voit plus qu'elle existe. Tandis que quand vous êtes très saisi par la finalité, il n'y a pas de danger de supprimer l'âme. Donc, le partage des eaux entre conditionnement et finalité, entre nature et personne, est très variable. Suivant les différents âges. Alors, ce qui est curieux, c'est quand vous êtes en pleine force et en plein développement, l'âme l'emporte de 40 à 60 ans. L'âme l'emporte de beaucoup. Ensuite, avec le vieillissement, le corps, donc le point de vue de la nature, tend à reprendre une primauté, une priorité. Et on doit lutter contre cela. Parce que normalement, ça devrait être l'inverse. Plus on est âgé, plus on devrait être spirituel. Parce que notre corps s'affine. Et notre corps est habitué à vivre dans les altitudes. Donc, l'âge devrait augmenter la finalité. Et très souvent, c'est l'inverse. C'est le vieux grand-père qui fume. La finalité n'est pas grand-chose, elle n'est pas enfumée.